Les liaisons heureuses.
De Philippe Solers. Bonjour Philippe Solers.
Bonjour Colombe Schleck.
Sur votre site officiel, vous vous définissez comme écrivain européen d'origine française. Mais vous êtes aussi éditeur, critique littéraire. Je dirais d'abord un immense lecteur. C'est ce qui transparaît dans vos livres, et en particulier dans le dernier, Discours parfait, publié chez Gallimard. Est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture ?
Non, mais je me souviens très bien, je le raconte d'ailleurs, une fois de plus, du moment où j'ai su que je savais lire. Donc la scène se déroule à la campagne, je suis en train de faire le béaba, vous savez, ma mère est à côté de moi, on est sur un tapis rouge, et tout à coup, les phrases s'enchaînent. Là, je passe le mur du son. Et elle me dit, ah ben maintenant tu sais lire, j'ai 5 ans, papa. Voilà. Et là, ça a été un sentiment mais vraiment d'ivresse. Je suis sorti dans la campagne et j'ai commencé, en me répétant tout le temps, je sais lire, je sais lire, je sais lire, comme si j'étais muni d'une arme absolue, vraiment une bombe atomique. Voilà. Et donc, je me souviens très bien de ce moment. Et depuis, j'ai lu.
C'est votre mère qui vous a appris à lire ?
Elle me faisait annonner, et après, tout à coup, les phrases sont parties. Alors, elle ne m'a pas appris à lire du tout, parce que j'ai lu beaucoup de livres qu'elle n'aurait pas voulu que je lise.
Vous lisiez en cachette ?
Oui, beaucoup, beaucoup.
Vous vous souvenez de ses premières lectures ?
Ah oui, bien. C'est surtout la poésie, d'abord. Après, on va fouiner un petit peu partout.
Mais petit, voilà, enfant.
La poésie, oui. Enfant, c'est le récit d'aventure, c'est n'importe quoi, on ingurgite. Et puis, il y a un moment, un déclic, alors c'est un peu plus tard, c'est vers 12, 13 ans, 14 ans. C'est la poésie, et pour moi, ça a été la révélation de Baudelaire. C'est-à-dire qui a marqué, alors, un seuil presque sacré. La poésie, fondamentalement, la poésie. Et je crois encore que la poésie, c'est vraiment le comble de ce qu'on peut atteindre en tant qu'être humain. C'est un désir. Mais c'est quelque chose de tout à fait bouleversant, parce que c'est comme la musique, et c'est comme les mots prennent une importance particulière. Et si c'est remarquablement bien fait, comme chez Baudelaire ou Rimbaud, si vous voulez, ça devient absolument magique. Donc, le sentiment d'avoir su lire est une opération magique, et ensuite on la prolonge par des lectures alors un peu fondamentales.
Et ces poésies, est-ce que quelqu'un va vous les donner, vous les offrir, ou vous les trouvez par hasard dans la bibliothèque familiale ? Comment ça se passe ?
Il n'y avait pas énormément de livres chez moi. C'est le contraire de ce que raconte Sartre dans Les mots, par exemple. Au contraire, il a été oppressé par le fait que son grand-père était bourré de livres, etc. Ça le coupait du monde. Au contraire, moi j'ai eu l'impression d'aller dehors avec les livres, et non pas de rester enfermé.
Vous les trouviez où, ces livres, Philippe Solers, alors
ces livres, je les...
À l'école, un instituteur ?
Sûrement pas à l'école, parce que l'école n'apprend pas du tout à lire, non. Non, parce que, je sais pas, ça traînait ici et là. Enfin, il y avait une librairie à laquelle j'allais souvent traîner, qui était très, très désordonnée, et j'ai dû voler des livres, d'ailleurs.
Là, un libraire ?
Oui. Il y avait une vieille librairie à Bordeaux, où je suis né. Et c'est là que j'ai découvert des livres qui traînaient là, que personne n'achetait. Voilà. Puis la grande révélation, ça a été Proust, quand même, très, très vite. Voilà. Ma mère lisait Proust, et Colette, voilà. Donc là, je lui ai piqué.
Vous en avez parlé avec elle ?
Non.
Vous ne parliez pas littérature chez vous. Votre père était industriel, je crois.
Oui, absolument.
Il souhaitait que vous preniez l'entreprise familiale, et vous avez dit non. Comment vous avez appris à dire non ?
Très tôt. Ça s'apprend très, très vite. À dire non, à dissimuler, à mener une guerre défensive contre les adultes qui sont la plupart du temps des enfants en difficulté. Les adultes, les pauvres adultes, ont eu des enfances terribles, malheureuses en somme. Des liaisons malheureuses avec leur enfance. Oui. Ouais. Et donc non, il faut mener une guerre défensive. Je m'en suis tiré en étant beaucoup malade. C'est une ruse que je conseille à tout le monde. Très tôt, vous prenez votre famille en otage, vous vous portez malade, vous ne faites plus vos devoirs, vous n'allez plus à l'école, vous restez dans votre lit.
À lire.
À lire, voilà.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais dans un de vos bulletins scolaires était écrit « Esprit frondeur passe son temps sur les rebords de la fenêtre à faire le chimpanzé pour amuser les filles ».
Oui, c'est ça. C'est au lycée de Bordeaux. Absolument, je pourrais vous montrer mon carnet scolaire. Esprit frondeur de la part des professeurs, c'était plutôt une qualité. Mais enfin, j'avais des notes exécrables en discipline. J'avais deux chaque fois. La discipline laisse à désirer. Oui, fais le chimpanzé sur le rebord des fenêtres pour épater les filles. J'étais dans un lycée mixte, donc à Bordeaux. Donc voilà. C'est-à-dire que, oui, réfractaire, anarchiste profond.
À 19 ans, vous assistez à une conférence de Francis Ponge, le poète, mm-hmm. et c'est lui...
Que j'ai rencontré très tôt, ouais. comme d'autres écrivains. Comme,
Et vous lui faites lire déjà des choses que vous avez écrites.
Ouais. C'est ouais. à lui que je les ai montrées, mm-hmm. qu'il les a communiquées à Jean Paulhan, qui était à ce moment-là directeur de la NRF, et Paulhan les a appréciées, mais j'ai suivi une autre route. Ponge, c'était parce qu'il donnait les conférences à l'Alliance française. J'habitais en face, j'ai traversé le boulevard Raspail pour aller le voir. C'était étonnant de voir quelqu'un, un poète aussi important, donner des conférences où il y avait 10 personnes pour gagner sa vie. Oui. Il était très pauvre.
Et vous l'avez interrompu pendant ces conférences, Philippe Sœur. Bon, et vous a marqué, c'est ça
ou... À la fin, je ne serais pas permis, mais à la fin, j'ai lui montré que j'avais quelques textes comme ça. Voilà. Il m'a encouragé beaucoup.
Et c'est lui qui vous a envoyé chez Jean Cayrol, chez l'éditeur Jean Cayrol?
Non, pas du tout. J'ai envoyé... Cayrol avait fondé une petite revue pour des jeunes écrivains qui s'appelait Écrire, et il a découvert un certain nombre d'écrivains jeunes, qui étaient ouverts aux jeunes écrivains. Là, j'avais à peine 20 ans.
Hein, voilà. On va écouter justement Jean Cayrol, qui vous interview en 1960 à propos de cette petite revue et de ses premiers écrits. Ça se passe le 31 mars 1960, ça s'appelle Les Jeunes Auteurs, c'est une émission de l'ERTF.
Bien les voici, trois jeunes auteurs d'écrire, Philippe Sellers, qui a publié un roman il y a un an, Une curieuse solitude, qui a eu beaucoup de succès, dont on a beaucoup parlé, et qui avait donné dans Écrire un petit texte, Le Défi, qui avait été très remarqué. Il a 23 ans. Geneviève Dorman, La Fanfaronne, c'est un livre qui a paru, un roman qui a paru au mois d'octobre. Enfin, notre Benjamin Claude Durand, qui a 21 ans, et qui maintenant va donner son premier roman, Le bord de la mer. Philippe Sellers, comment êtes-vous venu vers Écrire, vers ces cahiers?
Eh bien, ça a été à la fois un chemin simple et banal, puisque c'est en voyant une annonce dans un journal provincial, une annonce publicitaire, je suppose, au moment où vous avez fondé ces cahiers, que, comme je venais d'écrire un court texte et que vous disiez dans cette annonce que les courts textes avaient leur place dans ces cahiers, j'ai décidé de vous l'apporter et de voir, au fond, s'il pouvait rentrer dans cette collection.
Quelle a été sur vous l'influence de Monsieur Jean Cayrol?
Cayrol a une influence extrêmement nette et bénéfique en ceci que, comme il y a peu de personnes plus attentives que lui, il m'a rendu, je crois, beaucoup plus précis et beaucoup plus exigeant envers la forme, enfin. Et c'est ce que je souhaitais.
Philippe Sellers, vous êtes toujours d'accord avec le Philippe Sellers de 23 ans?
Persiste et signe, c'est ça, voilà. Ouais. Oui. Donc c'était mon premier texte publié, qui était aussitôt...
C'est incroyable ce qui lui est arrivé à ce texte.
Oui, c'est Mauriac.
Mauriac, le destin d'écrire devant lui comme une admirable prairie.
Ça, c'est Aragon.
Voilà. Excusez-moi.
Mauriac, c'est « J'aurais été le premier à citer ce nom », etc. Ouais, voilà. Ouais. Mauriac et Aragon, voilà. Le Vatican et le Kremlin. Voilà.
C'est fou.
On ne pouvait pas penser faire mieux.
À 20 ans.
22, oui. 22. Voilà, bon. Mais alors après, il faut faire autre chose, il faut passer, il faut refuser.
Mais vous les rencontrez, Aragon, Mauriac, à ce moment-là?
J'ai rencontré, oui, je les ai vus, bien sûr. J'aimais beaucoup Mauriac, qui était d'une drôlerie et d'une générosité considérable. J'admirais beaucoup, et j'admire toujours beaucoup ses écrits politiques, c'est-à-dire le bloc-notes, par exemple, où d'ailleurs il est question de moi assez souvent. Et là, c'était une époque quand même très, 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 très troublée. Hein. On est au début dans la guerre d'Algérie à fond, ça va m'arriver, beaucoup d'amis à moi sont morts là-bas, ou blessé. Voilà. Donc, Aragon, c'était autre chose. C'était le spectacle, quelqu'un qui pouvait vous lire ses poèmes pendant 2 heures, vous pouviez sortir, aller prendre un verre, revenir, il ne se serait même pas rendu compte de votre absence. Mais un personnage extrêmement séduisant.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Qu'est-ce que vous a appris Mauriac quand il vous reçoit, que vous avez 20 ans, 23 ans?
Pas grand-chose.
Vous donne des conseils?
Des conseils, faire attention à la moindre phrase. Bon, ça, j'étais capable de me le dire tout seul, c'est pas le problème. Le problème, c'est de la liberté, l'indépendance. Mauriac a été considérablement attaqué... Pendant l'histoire d'Algérie, bon, enfin bref, Sartre et Mauriac, c'était vraiment les victimes potentielles du fascisme français, hein, faut pas l'oublier quand même.
Donc voilà. C'est apprendre à être haï, jalousé. Vous dites que c'est important.
C'est toute une expérience, sûr. Je crois qu'il faut faire travailler la haine, il faut faire travailler la jalousie. Il faut que les gens qui ne vous aiment pas soient, sans le savoir, obligés de travailler pour vous. Ce sont vraiment des alliés, objectifs, comme on dit. Voilà. Et alors, ils sont là, ils s'acharnent, et évidemment, par contrepoint, parce qu'il y a aussi des gens qui vous aiment, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Donc, voilà, ça peut... Oui, la haine fait partie de cette région.
Justement, on va écouter Céline. À ce propos, un entretien avec Paul Chabrion dans l'anthologie Céline chez Frémaux et Associés.
Pour faire de l'ordure, il faut en être sorti. n'est-ce pas? Il faut justement être très détaché, et c'est mon cas. Je suis essentiellement raffiné et essentiellement plutôt puritain. Je bois de l'eau, je mange des nouilles et je n'ai
aucun... Et vous ne fumez pas?
Je ne fume pas, je ne me connais aucun vice, rien du tout. Et par conséquent, j'attends n'importe qui.
Les hommes les plus vertueux sont les plus dangereux.
Oui, c'est ça le problème. C'est ce qu'on a reproché à Robespierre, il y avait juste... Et ce qui a fini si mal. Et alors... L'histoire, c'est que cette ordure que vous manie, je la manie en prochain...
En médecin, non?
Oui, à peine. En prochain, un peintre de se servir de la couleur caca dans le fond de ses tableaux. Parce que c'est un bon fond de caca, n'est-ce pas? Dans les tableaux, on en voit tout le temps, des tableaux en caca, il y en a partout. Mais c'est l'opposition des teintes qui fait les choses.
Et est-ce que vous avez déjà eu des lecteurs qui ont été horripilés, horrifiés par votre style et qui ensuite sont devenus des admirateurs?
Je ne m'en occupe pas, ni s'ils sont horripilants, horripilés ou horripileurs.
Oui, mais vraiment,
vous... complètement égal.
Vraiment, vous êtes
l'homme est indifférent.
Vous êtes un être horripilant pour le lecteur.
Mais ça m'est égal. Je ne cherche pas à l'être même, encore bien plus. N'est-ce pas? Je pousse mes prix jusqu'à ne même pas demander à être horripilant. N'est-ce pas? Ça m'est égal. Ça m'est tout à fait différent. La technique.
Donc c'était Céline, un être horripilant pour le lecteur, interrogé par Paul Chambrion pour l'anthologie Céline chez Frémaux et Associés. On dirait ça de vous, Philippe Solers.
J'ai la plus grande admiration pour Céline. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il fait vivre la langue française, en l'occurrence. Il appelle ça la voltairiser, l'électriser comme personne. Tout le monde a l'air un tout petit peu rampant à côté de lui. Et ne serait-ce qu'un livre que je conseille à tout le monde de lire, parce que vous allez éclater de rire à chaque instant, c'est du grand Molière, de la grande parodie. C'est les entretiens avec le professeur Y. C'est à mourir de rire à chaque instant. Donc la vertu comique de Céline est absolument rare, fondamentale. Alors évidemment, il y a ses rages célèbres, mais surplombant sa phrase avec une musicalité incroyable. Donc vous savez, Céline est un épistolier, par exemple, de génie. C'est quelqu'un qui est aussi entraînant que Voltaire ou Madame de Sévigné. Vous ouvrez une lettre de Céline et paf, ça y est. Il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de circonvolution, il n'y a pas de préciosité. Il y a parfois, à mon goût, un peu d'argot qui fait vieillir ses textes ou de vociférations racistes, ça va sortir. Mais il y a cette impulsion considérable.
Dans un de vos romans, Passion fixe, vous faites le portrait d'une femme que vous avez aimée. Je vous cite... Je suis un poisson dans son eau, elle m'a laissé paître, elle saura comment me faire mourir.
Oui.
Vous aviez une vingtaine d'années, elle avait le double de vous. Est-ce que c'est une femme qui vous a fait écrire?
Les femmes ont joué. Les femmes me font beaucoup.
Est-ce que l'amour vous fait écrire?
Beaucoup respirer. Ben oui.
Ou lire.
Mais oui, bien sûr. Je crois que c'est Stendhal qui a dit les choses les plus fondamentales là-dessus. C'est-à-dire que l'amour et l'écriture. Vous savez, Stendhal a cette phrase extraordinaire. L'amour a toujours été la grande affaire de ma vie, ou plutôt la seule. Alors, vous vous dites, mais quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit quand même Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme, Lucien Levin, etc. Il ne dit pas l'écriture. Il dit que c'est l'amour. Or, il a raison, parce que c'est la même chose. L'amour fait vivre les mots.
Vous fait écrire?
Oui. Enfin, elle fait écrire certains. Hein, oui. Mais fait mal écrire beaucoup.
Et vous, est-ce
que d'histoire d'amour marmante.
Votre femme, quand vous parlez de votre femme, la psychanalyste Julia Kristeva, vous dites aussi, je regarde ce qu'elle lit, je lis et je relis à mon tour. Elle vous fait lire.
Elle passe beaucoup de temps à travailler. Je connais personne qui travaille autant d'ailleurs, dans différents domaines, notamment la psychanalyse. Et on a évidemment des conversations assez poussées sur certaines choses. Ça, c'est certain que elle a écrit des livres. D'ailleurs, il y a un livre sur Proust qui est formidable. Proust, c'est le temps sensible. C'est un très 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 bon livre sur Proust.
Dans votre dernier livre, Discours parfait, vous parlez, vous appropriez, enfin vous refaites revivre des grands auteurs du XVIIIe siècle. Mais est-ce qu'il y a des auteurs aujourd'hui avec lesquels vous avez cette relation de construction qui vous font...
Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai des relations de plus en plus intéressantes avec quelqu'un que je fais beaucoup rire, qui est tout à fait à l'opposé de moi, et en même temps être à l'opposé à ce point, c'est presque être pareil, c'est Patrick Modiano. Donc on parle, alors, et au bout de 10 minutes, il parle très très bien, et il a des fous rires continuels, et donc c'est très très joyeux. C'est très rare d'avoir des amis écrivains, hein. Voilà, c'est très difficile, parce que tout le monde observe tout le monde, et tout le monde se demande ce que va faire celui-là.
Voilà. Oui, de jalousie, voilà. Il n'y a pas de jalousie avec Patrick Modiano.
Moi, je n'éprouve pas la jalousie. C'est un sentiment qui m'est pratiquement inconnu. Voilà, je suis ravi quand des auteurs que j'estime ou que j'aime carrément, voire plus jeunes, ont du succès.
Mais c'est souvent le cas avec des écrivains ou des éditeurs que je reçois ici. Ils me disent, on est tous tellement poussés par l'amour de la littérature et des bons livres qu'on est finalement, on est heureux plus que tout quand on lit un bon livre.
Oui, mais c'est plus difficile d'être soi-même écrivain et d'accepter que d'autres
le soient aussi.
Parce que l'éditeur, après tout, c'est son rôle, il est dans l'ombre, il n'est pas au premier plan, il ne prétend pas surpasser les auteurs de son temps, en principe.
Mais vous êtes aussi éditeur.
Je suis éditeur et je fais une revue, une collection qui s'appelle L'Infini, et je suis absolument ravi quand quelqu'un qui a 30, 40 ans peut percer ce mur de béton qui est devenu la société actuelle, parce que je ne voudrais pas avoir 25 ou 30 ans aujourd'hui. Hein, c'était beaucoup plus, en fait, beaucoup plus libre, beaucoup plus risqué, mais en même temps plus libre autrefois. Là, il faut avoir du succès assez vite et rapidement, et bon, si on l'a pas, le deuxième ou troisième livre n'est pas forcément édité. Donc, par exemple, un auteur comme Yannick Enel, je suis absolument ravi qu'il puisse commencer une très, très grande vie d'écrivain. Et comme il se doit, avec quelques livres, Cercle notamment, et le dernier, Yann Karski, il déclenche des polémiques et des jalousies et des haines recuites. Donc tout va bien.
C'est ce que vous diriez à un jeune écrivain aujourd'hui, il faut être haï, jalousé pour...
Non, franchement, ça fait partie, en tout cas, du jeu. Il ne faut pas, mais si ça a lieu, c'est une preuve que quelque chose a été touché. Houellebecq, par exemple, bon, il a eu un grand succès, mais en même temps que de règlement de compte, que de jalousie, etc. Mm. C'est un des très bons écrivains de notre temps.
Vous citiez tout à l'heure Stendhal sur l'amour, la grande histoire de sa vie plutôt que l'écriture. Et,
la seule.
Et,
il a pensé qu'à ça, dit-il lui-même.
Vous citez comme modèle Casanova, et ça me paraît contradictoire. On a un côté d'un sentiment d'accumulation de conquêtes. Oui. Peut-être que je me trompe, mais en quoi Casanova est un modèle pour vous, Philippe Soler ?
C'est pas un modèle. Vous savez, moi, ce que je crois, je ne crois pas qu'il y ait des oppositions en art. C'est-à-dire qu'on peut aimer. À condition que ce soit vraiment très, 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 très fort, on peut aimer des gens complètement contradictoires. Et donc, Casanova, vous savez que ce manuscrit vient d'arriver à Paris après 212 ans. Le papier d'une fraîcheur considérable. Histoire de ma vie est absolument... Mais un livre écrit en français par un Italien, considérable aussi. Et il y avait le manuscrit, j'étais le voir au ministère de la Culture. Il y avait les photographes et les caméramans qui n'arrêtaient pas de prendre... J'étais obligé de leur faire remarquer que c'était du français. Mais en fait, ce qui comptait, c'était la photo. Et puis de l'autre, la signature du chèque, c'était 7,5 millions d'euros. Bon, mais alors, vous voyez, le monde dans lequel on vit, il y a photo et argent. Mais qu'est-ce qu'il dit, Casanova? Hein, c'est dans des milliers de pages.
Qu'est-ce qui vous a apporté, Casanova, alors vous?
Toujours la même chose, la liberté. C'est-à-dire une vie d'une extraordinaire liberté jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où il écrit 12 heures ou 13 heures par jour, là-bas en Bohême, dans un petit château que j'ai été visiter. Voilà. Donc, tous ces noms, c'est le contraire, vous comprenez, de l'intellectuel servile, de l'intellectuel qui veut dire le bien, qui occupe un rôle dans la société. C'est le contraire. C'est le contraire du philosophe résigné ou enfin qui sert des opinions. La question n'est pas là. La question, c'est chaque fois un corps précis, très différent souvent d'un autre, mais dans la même catégorie. Ce sont des artistes de la liberté. C'est ça qui est intéressant chez eux.
Et comment vous l'exercez aujourd'hui, cette liberté ?
Ben, en étant indépendant. C'est-à-dire, personne ne peut faire pression sur moi dans aucun domaine. Je peux dire ce que je veux, personne ne lit par-dessus mon épaule. Et franchement, j'arrive à le faire publier, vous vous rendez compte, c'est considérable.
Mais ça vous est arrivé qu'on fasse pression sur vous? Vous avez senti, voilà, le...
Oh ben on a essayé, bien entendu.
On essaie de vous faire taire.
Les pressions sont... Non, ça, on n'y serait pas arrivé, à moins d'être enfermé en prison, bâillonné, etc. Parce qu'on vit quand même dans une époque un peu... Non, mais enfin, il faut se défendre de la famille, encore que la mienne était pour la plupart des gens qui la constituaient plutôt adorable. Il faut se méfier de l'école, il faut se méfier de l'armée au moment de la guerre d'Algérie. Après, il faut se méfier des pressions sociales, il faut dépasser les problèmes d'argent, il faut savoir naviguer. Ben voilà. Naviguer.
Naviguer dans Paris, vous êtes un as, il paraît.
Oui, c'est ouais, ça. Voilà, ouais, ouais. Naviguer. Et comme dit Casanova, il a une très belle formule, il a une devise que j'adore. C'est-à-dire, il le dit en latin, sequere deum, suivre le Dieu. Mais qu'est-ce qu'il entend par là? Ben, c'est le hasard, c'est la rencontre, c'est la chose qui vous libère au moment où vous y attendez pas. Un secours qui arrive alors que vous l'attendiez pas. Vous voyez, c'est ça. Le hasard. Les surréalistes sont très forts là-dessus, sur la rencontre, la chose qui doit se passer. On sort dans la rue, il va se passer quelque chose. Vous voyez, c'est de Breton dans Nadja, voilà.
Numéro 4 en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, joué par Glenn Gould. Vous êtes très heureux quand vous écoutez ça, Philippe Solers.
Ouais. Gould est un génie. Ouais. Et c'est-à-dire que si vous écoutez ça, vous avez l'indépendance des deux mains qui vous paraît absolument prodigieuse. Ouais. Et surtout, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il a compris que désormais, ce qu'il fallait faire, très tôt, c'était plus le concert romantique, donner des concerts d'une salle où les gens tout sautent, où vous êtes obligé de briller, de faire la sensation du génial interprète. Non, ce qui compte, et il l'a compris avant tout le monde, c'est l'enregistrement. C'est-à-dire, vous avez vu des films où Gould est en train de jouer.
Oui. On l'entend murmurer.
Le menton. Ça gênait beaucoup les techniciens. Pablo Casals fait ça aussi, à propos de Bach. Hein, ils ont des petits gémissements d'émotion. Et vous l'avez le menton sur les touches, et il est là en train de jouer ces choses de bas qui sont absolument admirables. Et il a compris que désormais, c'était le numérique, nous y voici. C'est-à-dire, on pouvait retoucher quelque chose, un dixième de seconde, un centième de seconde. Voilà. Et donc ça, il y a une discussion entre lui et Benjamin qui est absolument hilarante. Ils viennent de jouer une sonate de Brahms sans conviction, l'un et l'autre, ensemble. Et Benjamin lui dit, mais enfin, Glenn, pourquoi vous ne faites plus de concerts? Et alors l'autre lui dit, mais cher ami, c'est fini le concert, c'est pas ça. Il faut faire des enregistrements extraordinairement précis. Avec Bach en plus, c'est très bien, c'est des mathématiques enchantées. Hein, vous entendez là une certitude, une conviction de l'interprète comme du compositeur qui est mort en 1750, vous vous rendez compte. C'est absolument comme si le temps n'avait aucune prise là-dessus, alors que le romantisme, lui, se déglingue à toute allure.
Je serais été le mot de la fin, mais juste une dernière petite question. Vous pouvez pas nous raconter une blague de Patrick Modiano, ce qui vous fait tant rire?
Non, Modiano est très intéressant. D'abord, c'est quelqu'un de, je crois qu'on enferme trop dans son rôle mais il est extrêmement intelligent. C'est ça qui me frappe. Les écrivains très intelligents, c'est pas si fréquent. Et lui, il a une percussion très nette. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il a une vision très très fine. C'est pas des blagues. On peut rire de l'histoire.
Parce que dit que vous riez beaucoup ensemble.
Non, c'est moi qui le fais rire plutôt.
D'accord, c'est vous qui racontez les blagues.
Je vais plus vite. Oui, je lui raconte l'envers de la société, et ça le fait beaucoup rire, mais là, il a, par exemple, c'est le seul qui accepte de me parler pourquoi je suis né à Bordeaux, pourquoi on n'était pas vichiste à la maison, pourquoi on écoutait Radio Londres, ce qui en général ne vient jamais dans une conversation avec personne, attention, on est sérieux là. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est la guerre d'Algérie, comment j'ai passé 3 mois dans des hôpitaux militaires en feignant d'être schizophrène au dernier degré, j'ai perdu 25 kilos, ça. Il est très attentif à ça, c'est la seule personne qui accepte de savoir d'où je viens et ce que j'ai fait dans la vie. Ce qui est curieux. Quand même.
Mais c'est ça qu'on aurait dû faire dès le début de l'émission, Philippe Solers.
Ben oui.
Ensemble.
Ben voilà.
Ouais. Parce qu'effectivement, vous parlez de vos parents industriels, mais effectivement, vos parents étaient résistants gaullistes pendant la guerre.
Résistants, c'est beaucoup dire.
Mais gaullistes, bon. En tout cas pas vichistes.
C'était Londres. Oui. Londres a toujours raison. Voilà, la banque de la maison, c'était. Enfin, après, ils se sont ruinés. C'est la Westminster. Donc, c'est très vite fait. Alors ailleurs, il n'y a que du mauvais goût, des cris, des hurlements, de la plèbe. Enfin, c'était les bourgeois classiques. Mais à mon avis, ils avaient raison. La reine, je n'ai jamais été plus content que de la visite de la reine Mary, la vieille reine Mary, c'est charmant d'ailleurs, hein. Et elle est venue à Bordeaux, et j'avais un petit costume, on était invité au consulat britannique, parce que pour fait de résistance, mais n'exagérons rien, c'était de faire passer des aviateurs quand même anglais dans les caves, et les faire passer en Espagne.
C'est pas grand chose,
enfin on n'est pas mort. Donc la question, c'est, elle arrive, elle était très pomponnée, c'est une vieille dame très chic, et j'avais un petit costume de flanelle, elle m'a embrassé, elle avait une très bonne poudre, comme ça, et elle a commencé comme ça. Nous voici enfin revenus dans notre bonne ville de Bordeaux. Et oui, parce que Bordeaux était anglais hein, autrefois.
Ça, c'était vos parents, Philippe Sellers. Merci Philippe Sellers.
Merci Colomb.
Cette émission a été réalisée par François Audouin, Amel Caldi et Philippe Duclos. Et on se quitte avec François Morel, faut pas exagérer.
Elle dit que je suis le plus beau, que j'ai un corps parfait, qu'à côté de moi Rambo fait un peu gringaler, que mon sex-appeal est simplement idéal, qu'à côté Georges Clooney paraît un peu banal. Elle dit que mon esprit éclatant lumineux fait de Sacha Guitry un scribe laborieux. Elle dit que mes couplets sont de pure merveille, qu'ils ont la pureté des pièces de Corneille. Faut pas exagérer. Faut quand même pas exagérer. Même si bien sûr il y a du vrai, faut quand même rien exagérer. Si je fais un croquis, elle me dit aussitôt qu'il est bien plus joli que tous les Picasso. Si je compose un air, elle dit enthousiasmée qu'à côté de moi Wagner paraît peu inspiré. Si je fais une photo sur mon Instamatique, elle me dit que Douaneau à côté c'est basique. Elle dit que mes refrains aux rimes impeccables sont simplement divins, simplement admirables. Faut pas exagérer, vous gêner. Faut quand même pas exagérer. Même si bien sûr il y a du vrai, faut quand même rien exagérer. Je ne veux pas sembler trop fier, trop prétentieux, mais il faut bien parler de nos jeux amoureux. Monter au septième ciel avec toi, me dit-elle, semble aussi naturel qu'un ange avec ses ailes. Oh, fuis-toi. Question sexualité, elle dit que mes prouesses méritent de figurer dans les pages du Guinness. Elle dit que mes chansons aux sublimes paroles un jour prochain seront apprises dans les écoles. Faut pas exagérer. Faut quand même pas exagérer. Même si bien sûr il y a du vrai, faut quand même rien exagérer. Mais ça c'était hier quand elle me trouvait carrément exemplaire, absolument parfait. Mais parce que j'ai souri sans arrière-pensée à une fille jolie qui dans la rue passée, elle me traite de salaud, d'Henri Blair ottoman, de vicieux, de pourceau qu'il faut mettre en cabane. M'a même dit que j'étais un monstre, un obsédé, qu'Émile Louis à côté c'est Alfred de Musset. Faut pas exagérer. Faut quand même pas exagérer.
Même si bien sûr il y a du vrai.
Comment ? Faut quand même rien exagérer. Là, faut pas. Tu vois, c'est marrant parce que tu n'arrives pas quand tu me dis quelque chose. Tu, tu, tu,
Merci à Colombe Schneck et n'oubliez pas, vous pourrez réécouter ou télécharger l'émission sur www.franceinter.com. Sachez que dans quelques minutes, ce sera la librairie francophone présentée par Emmanuel Kerad qui fête aujourd'hui sa 200e, donc ce week-end. Émission spéciale à l'occasion des 5 ans de l'émission et des 200 numéros réalisés, bien sûr. Nous irons dans les rues de Bruxelles avec Grégoire Paulet sur les traces de son inspiration en compagnie de l'auteur André Carpentier qui observera les citoyens des villes. Et puis il y aura bien sûr bien d'autres surprises. Je vous souhaite un très bon week-end sur France Inter. Il est 17h.